Stop, c'est parti.
Devant la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter et c'est l'instant M qui démarre jusqu'à 10h.
Vous êtes en direct, allez-y.
Chaque matin, vers 5h, je fonce sur Twitter. J'y suis abonné à 1700 comptes environ qui, jour et nuit, partagent pléthore de photos de presse, de reportages vus à la télé, d'articles qui méritent attention et réaction. Je clique, je lis, je regarde tout ce que ces gens pointent et me conseillent. Grâce à eux, lorsque j'arrive au bureau, j'ai déjà fait mon petit tour du monde de l'information. Et si une histoire, un nom soulève encore des questions, eh bien je le tape dans la barre de recherche de Google qui immédiatement me propose des dizaines de papiers sur le sujet. Vous faites tout cela, chacun à votre échelle. Les géants du web sont devenus votre porte d'entrée pour vous informer. À eux, ça rapporte une audience et des revenus publicitaires phénoménaux. Mais aux journaux, ça rapporte quoi ? Pas un sou, figurez-vous. Ce sont eux, pourtant, qui financent le travail des journalistes. Mercredi, à Strasbourg, les médias historiques vont tout faire pour tenter d'imposer leurs droits d'auteur. Face à Facebook, Google et Twitter, le débat est électrique. C'est un immense enjeu culturel et économique.
L'Instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Deux invités à mes côtés pour vous expliquer en quoi cela est très concret, très crucial, très important et pas si difficile que ça à comprendre. On appelle ça le débat sur le droit voisin. C'est vrai que le nom fait un peu peur, mais nous on n'a peur de rien. On en fait une émission. Bonjour Marc Feuillet.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du groupe Le Figaro et à vos côtés, Basile Adair. Bonjour, bonjour maître. Vous êtes avocat spécialiste du droit de la presse. Je voudrais dire un tout petit mot d'abord parce que on a beaucoup parlé la semaine dernière de Visa pour l'image. Visa pour l'image, c'est le plus grand festival de photojournalisme et il vient de décerner sa plus haute récompense à Véronique de Viguerie pour sa couverture de la guerre au Yémen. Voilà, Véronique de Viguerie, elle est française, elle est la première femme à recevoir le Visa d'Or News depuis 20 ans, date à laquelle Alexandra Boula, très très grande photographe, décrochait ce prix prestigieux. Voilà, on va entrer dans ce dossier. C'est une tribune lue dans Le Monde il y a 3 semaines. Elle est signée Sami Khetz. Sami Khetz, il est prix Albert Londres, grand prix international du reportage en Irak. Il a 40 ans de carrière au compteur au Moyen-Orient. Il dirige le bureau de l'AFP à Bagdad. Et lorsqu'il a découvert le débat européen sur le droit voisin, qui est notre sujet du jour, eh bien, il a bondi. Il a bondi, il a pris sa plume et il a publié une grande tribune dans Le Monde. Sur le terrain, raconte-t-il, il y a des journalistes qui risquent leur vie pour informer. Cette information, elle a donc un prix. Nous avons joint Sami Khetz ce matin par téléphone.
Au cours de ma carrière, j'ai constaté que le nombre de journalistes de grande qualité avait diminué, était tombé à un niveau extrêmement bas. La seule raison, c'est que les médias et les journaux ne pouvaient plus payer les journalistes parce que leurs revenus, leurs ressources n'ont cessé de baisser. Et ça m'a extrêmement frappé pour me dire, mais écoutez, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, il faut changer les choses.
Vous avez souvent rencontré des gens assiégés, des gens isolés, des gens sans défense, avez-vous écrit dans votre tribune, qui ne vous demandaient qu'une seule chose, racontez ce que vous avez vu chez nous.
Oui, absolument, j'étais dans plusieurs endroits, que ce soit en Syrie, en Irak, même au Liban, et se retrouver dans des endroits totalement isolés où ils étaient assiégés, où on avait réussi à rentrer dans des conditions extrêmement périlleuses. Et quand ils nous voyaient, on voyait dans leurs yeux une sorte d'espoir. Ils nous disaient, écoutez, on est totalement assiégés, on est tellement coupés, on vous demande qu'une seule chose, racontez ce qui se passe. C'est notre seul espoir de pouvoir nous en sortir. Et ça, je pense que c'est une question fondamentale de démocratie, c'est qu'il faut des journalistes pour faire des journaux et il faut que ces journalistes puissent aller sur le terrain pour pouvoir raconter ce qu'il voit, pour que le monde entier soit informé de ce qui se passe. Le New York Times a calculé qu'une journée à Bagdad coûtait pour son journaliste $10,000 par jour. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de partir comme ça. Il faut dire qu'il faut un casque, des gilets pare-balles, souvent des gardes, une voiture blindée et d'autres éléments qui sont nécessaires. C'est-à-dire, c'est un investissement considérable. Ça coûte très cher d'envoyer un journaliste sur le terrain.
Voilà, et de l'envoyer dans les conditions de sécurité requises. Lorsque des gens sur le terrain vous demandent « racontez ce que vous avez vu », faites savoir, faites connaître notre sort et notre existence. Est-ce que pour vous, ça n'est pas une bonne nouvelle que vos dépêches, vos photos, vos reportages soient disséminés dans le monde entier et que tous y aient accès à travers justement Facebook, Twitter, à travers les moteurs de recherche, y compris des populations qui sont coupées de leurs propres médias?
Mais je ne suis absolument pas contre le fait que Facebook ou Google diffusent mes informations. C'est absolument nécessaire. La seule chose que je dis, c'est que Facebook ou bien Google utilisent nos informations sans payer. Et ensuite, c'est également Google qui touche le plus de publicité, qui engrange le plus grand de recettes. J'aurais dit, Internet doit rester gratuit. Il est hors de question de toucher la censure. La seule chose qu'on vous dit, prenez nos informations, mais payez. C'est la seule chose. Partageons une partie des recettes entre ceux qui envoient les médias, qui envoient les journalistes partout, et vous qui engrangez la plus grande partie des recettes. Partageons, c'est la seule chose qu'on nous demande.
Voilà, Sami Khetz, directeur du bureau de l'AFP à Bagdad, suite à sa tribune publiée dans Le Monde, que plusieurs dizaines de confrères journalistes partout en Europe ont signé. D'ailleurs, si vous-même, vous souhaitez vous joindre à cet appel, eh bien, il suffit de contacter l'AFP via son site internet avec vos coordonnées et une mini biographie de vos faits d'armes en journalisme.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, je vous rappelle le nom de mes invités, Marc Feuillet, directeur général du groupe Le Figaro, Basile Adair, avocat, spécialiste en droit de la presse. Marc Feuillet, on va être d'abord extrêmement concret, vous qui dirigez des journaux, combien de lecteurs lisent les articles et les photos des services du Figaro à travers Facebook, Google, Twitter, à travers les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche?
Alors, pour ce qui concerne le Figaro, c'est au moins la moitié. En général, ce sont les deux tiers.
Et plus en général en France?
En général en France et en Europe.
Oui.
Et plus les lecteurs sont jeunes, plus ils accèdent à l'information via les réseaux sociaux ou via Internet.
Voilà. Alors, Basile Adair, vous qui êtes avocat, la législation en place, elle existe. Il y a une législation sur le copyright et le droit d'auteur. On ne part pas de zéro. Seulement, elle date d'avant Google, en réalité, et d'avant les smartphones.
Oui. En fait, il y a une grande nouveauté dans le panorama, c'est qu'enfin les journalistes et les éditeurs sont d'accord pour se protéger ensemble. Et c'est vrai que historiquement, la guerre, elle était plutôt entre eux, puisqu'il fallait, les journalistes disaient, nous étions titulaires de nos droits d'auteur, et les éditeurs disaient, mais écoutez, c'est nous qui produisons l'information, c'est nous qui devons, c'est nous qui la vendons, c'est nous qui devons la protéger. Aujourd'hui, ils sont d'accord. Le système du droit voisin, il existe depuis longtemps. Il a été posé en 84 pour les producteurs de films.
Oui.
Donc c'est quelque chose qui existe, qui a fait ses preuves, qui marche. Les artistes interprètes ont aussi un droit voisin. Parce qu'ils considéraient que
les
c'était anormal.
Les musiciens,
c'est ça.
Ouais.
Ils n'étaient pas nécessairement les auteurs du texte ou de la musique, mais c'était parce que Johnny Hallyday chantait la chanson qu'elle avait beaucoup de succès. Donc ils disaient, il n'y a aucune raison que je n'ai pas moi aussi droit au. Alors là, aujourd'hui, on est dans un système invraisemblable, qui ne tourne pas rond. C'est-à-dire, comme vous venez de le rappeler, les grosses sociétés américaines vampirisent toute la publicité. On sait très bien que la presse vit de la publicité.
Vampirisent toute la publicité, c'est Marc Feuillet. Ouais, voilà, on va peut-être
Pour vous donner une idée, spectaculaire. Traditionnellement, les médias vivent de deux sources de revenus, les lecteurs, les annonceurs.
Voilà.
Et c'est avec tous ces moyens qu'ils financent leur offre éditoriale et surtout la plus coûteuse, l'enquête, le grand reportage. Sami Khetz disait qu'il avait vu disparaître, les moyens éditoriaux au fur et à mesure des années. Il y a un lien entre le nombre de journalistes et entre les dépenses éditoriales qui sont faites et la qualité. Ce que nous défendons, c'est ce journalisme professionnel. Un chiffre, on parle du New York Times comme une référence dans le journalisme dans le monde. Le New York Times a 1200 journalistes. Trois fois plus qu'un grand journal comme Le Figaro ou Le Monde. Voilà, c'est une question de moyens, la qualité éditoriale. Et donc, évidemment, il faut qu'on puisse avoir accès à ces revenus.
Voilà, les
92% de la publicité sur le mobile, sur les smartphones, qui sont les principaux usages maintenant, est captée par Google et Facebook.
92%.
En France, 8% de la publicité seulement peut rémunérer tous les médias, journaux, télévision, radio. Bon, c'est une situation qui est évidemment insupportable et je pense que le vote pour les droits voisins permettrait de résoudre une partie de ces blocages.
Alors justement, Basile Ader, tous les directeurs d'agences de presse ont signé à leur tour une tribune dans Libération, parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation des deux côtés. Hein, on va en parler. Ça a été un débat hystérique et même très 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 agressif, bien plus que ce qu'on pouvait imaginer, parlant carrément d'un hold-up. Donc là, on parle de l'aspiration des recettes publicitaires, mais après, on parle aussi de propriété intellectuelle. On parle aussi du contenu des articles,
mais
des photos.
Parce que vous l'avez rappelé à l'instant l'un et l'autre, ce que vont chercher les gens lorsqu'ils pianotent sur Twitter, etc., c'est la vraie information. Mmh. Les interrogations qu'on a sur Fake News sont très révélatrices. Il faut aujourd'hui que des journalistes estampillent l'information pour qu'on ait une forme de certitude qu'elle est un peu sérieuse. Il est absolument anormal que ces journalistes qui sont rémunérés uniquement par les éditeurs ne voient pas leurs œuvres, leur production protégée. Donc, si vous ôtez toute la production journalistique et qu'elle n'est plus accessible sur Twitter, les gens n'iront plus. Parce que si c'est pour voir les élucubrations des uns et des autres, ils n'auront plus d'intérêt. C'est ça que les GAFA doivent comprendre. C'est qu'eux aussi ont un intérêt à ce que cette information certifiée par des journalistes soit accessible. Mais pour ça, il faut qu'ils la payent. C'est aussi simple que ça. Et le système des droits voisins, je vous le dis, il a fait ses preuves. Il n'y a aucune raison de penser que parce qu'on instaurerait les droits voisins, c'est terminé, on n'aurait plus accès à quoi que ce soit.
Alors, il a fait ses preuves dans les industries culturelles.
Le disque, aujourd'hui la musique marche, regagne de l'argent parce qu'enfin, on paye la musique qu'on télécharge.
Voilà, donc l'idée c'est de l'étendre à la presse. Voilà. Marc Feuillet, un petit mot, parce que vous en avez entendu parler, vous avez quand même des correspondants. Les débats ont été d'une extrême agressivité. C'est-à-dire que moi j'ai lu des témoignages de députés au Parlement européen disant qu'ils ont été bombardés de mails et même le rapporteur du texte de menaces de mort.
Oui, alors on a été stupéfaits. On a été stupéfaits de ce qui s'est passé en juin et en juillet, la violence des débats, le harcèlement des parlementaires, l'argent qui a été mis par les plateformes américaines pour essayer de
qui ont des lobbies,
de,
ce qui est normal,
faire pression, évidemment, c'est le fonctionnement normal du Parlement européen. Mais on avait sous-estimé l'âpreté des débats et surtout, je dirais, les faux arguments. Ce qui nous a frappé aussi lors du débat du mois de juillet, c'est qu'on a fait peur. On a fait peur aux internautes, on a fait peur aux parlementaires en leur décrivant un monde qui n'existe pas, un monde où les internautes n'auraient plus accès à l'information, un monde où il y aurait de la censure. Donc
on va en parler très concrètement.
Voilà, beaucoup
justement,
de mauvais arguments
ont été
utilisés.
Il y a eu beaucoup de désinformation. Il y a un article 11 et un article 13 qui ont particulièrement fait débat. Basile Ader, à votre avis, est-ce que c'est plus important pour un petit éditeur, je ne parle pas d'un géant français, même si c'est un tout petit géant par rapport à Facebook ou à Google évidemment, mais le Figaro c'est quand même un grand groupe de presse en France. Quid d'un petit groupe de presse? Est-ce qu'un petit groupe de presse, un petit éditeur, n'a pas plus intérêt à voir ses contenus disséminés gratuitement, quitte à être pillé par Facebook, que de disparaître des radars? C'est une question de survie, c'est une question de visibilité.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut marcher totalement uni. Il ne faut pas que chacun ait posé sa carte. Évidemment, Google, Facebook et Twitter ont toujours besoin du Figaro et du Monde. Mmh. Donc, ils ne les excluront pas. Les autres, s'ils n'existent pas sur Google, ils n'existent pas. S'ils ne sont pas référencés sur Google, ils n'existent pas. Mais donc, ils ont intérêt à s'agréger.
Même le Figaro ne peut plus s'en passer.
À s'agréger et à marcher uni et à dire aux GAFA, écoutez, c'est tous ensemble. Et ça sera tous ensemble à partir du moment où on aura posé ce droit voisin.
C'est pour ça qu'il est proposé des sociétés de gestion collective pour collecter ces droits et pour les redistribuer.
Ça aussi, c'est quelque chose qui existe depuis toujours.
Exactement comme sur le modèle de la SACEM pour la musique. C'est ça, c'est-à-dire des sociétés qui représentent les gros comme les petits et qui redistribuent en fonction.
La SCAM le fait depuis très longtemps pour un certain nombre de producteurs audiovisuels. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.
Le CFC le fait pour la copie.
Oui, pour la copie.
Le CFC le fait pour la copie et chaque titre est rémunéré en fonction du volume qui est utilisé.
Donc on n'a pas besoin de réinventer.
Marc Feuillet, vos adversaires parlent d'un impôt sur les liens.
Non mais alors, cette fameuse taxe, qui évidemment, dès qu'on parle d'impôt, ça suscite évidemment l'irritation des parlementaires et des opinions publiques. Ce n'est pas un impôt, c'est un partage de la valeur. C'est la rémunération de la création. Et ça existe dans tous les secteurs. On a parlé tout à l'heure de la musique, mais le cinéma aussi répartit justement les revenus entre les distributeurs et les producteurs. Imaginez un monde du cinéma dans lequel seuls les distributeurs prendraient les revenus de la création. Ça n'existe pas, évidemment. Ce sont des faux arguments.
Alors, Basile Adair, vous qui êtes avocat, imposez à Google, Facebook, Twitter, évidemment, de s'engager à ce qu'aucun contenu en ligne ne soit diffusé à partir du moment où il contrevient, hein, justement, à cette question du droit d'auteur. C'est leur imposer de filtrer et de contrôler tout ce qui est diffusé sur leur réseau. Mmh. Voilà. Ça pose une question gigantesque. Mmh. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, on les a toujours considérés comme des tuyaux, absolument pas responsables de ce qui circulait dans ces tuyaux. Et là, il y a une responsabilité juridique. C'est là peut-être où le débat s'est le plus crispé, Basile Adair.
Oui, bien sûr, il s'est crispé. Mais là encore, on dit beaucoup de choses fausses. On l'a vu pour les données personnelles, avec l'instauration depuis mai dernier du RGPD, qui, en Europe en entier, et là, l'Europe a marché unie et a imposé aux GAFA de respecter les données personnelles. Ça sera la même chose. YouTube fait déjà ce filtrage. Ils ont les moyens techniques d'identifier les contenus qui sont ou non
qui
autorisés.
Sont pirates.
Et ceux qui sont qui auront des licences auprès de ces sociétés d'auteurs, quoi, des sociétés d'éditeurs, ils seront immédiatement accessibles. Il n'y aura aucune difficulté. Ce qu'il faudra, c'est juste avoir payé un petit quelque chose au départ. Et qui n'est pas grand-chose par rapport aux milliards qu'ils reçoivent. Donc, franchement, je trouve
on va peut-être rappeler, Facebook, 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 16 milliards de dollars de bénéfices. Google, 110 milliards de chiffre d'affaires et 13 milliards de bénéfices. Marc Feuillet, il y a tout un monde qui s'est mobilisé contre cette réforme du droit d'auteur. Mais il y a par exemple des éditions de Wikipédia dans certains pays qui sont contre. Il y a tous ceux qui défendent l'Internet libre et qui d'habitude sont les ennemis de Google et de Facebook. Là, ils sont contre. Ils sont contre parce qu'ils ne veulent pas d'un monde entièrement juridisé, complètement congestionné par des procédures dans tous les sens. Ils ne veulent pas que les GAFA se disent contenu douteux, des gens avec qui on n'est pas en relation, hop, on bloque. Ils veulent une liberté d'expression.
Permettez-moi juste de dire une chose. Adair, le droit, c'est la liberté. C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Les pays de droit sont des pays de liberté. Quand il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté. Ça c'est
le droit
chose
du
que
plus fort.
Oui, c'est le droit du plus fort, c'est le droit de la jungle. Et les plus forts, on sait très bien où ils sont. Pardonnez-moi, je vous ai coupé.
Non, mais je vous en prie, maître, mais vous avez tout à fait raison. Ce sont des faux arguments. Et c'est toujours les mêmes qui sont utilisés lorsqu'on veut réguler l'Internet. Lorsqu'on veut réguler l'Internet, il y a toujours un discours qui consiste à dire que c'est liberticide. Alors, au contraire... et d'ailleurs, les événements récents, les élections en Grande-Bretagne, le Brexit, les élections aux États-Unis, les polémiques autour de Trump nous montrent que c'est en finançant le journalisme professionnel qu'on fait vivre les démocraties. Donc je pense que ces gens se trompent de combat, ils sont désinformés et je crois qu'ils jouent un mauvais rôle dans ce débat.
Voilà, Basile Adair, un dernier mot. Il y a une mouture du texte qui a été rejetée en juillet, qu'on a considérée là pour le coup liberticide. Le centriste Jean-Marie Cavada a tweeté « c'est un Munich culturel ». Vraiment, il était totalement effondré. C'était quand même l'idée que toute l'Europe se mettait à genoux devant ces grandes puissances autoritaires.
Adair. On n'a pas dit nos derniers mots, mais le fait que vous nous invitiez à votre antenne à une heure de grande écoute est un bon signe que les gens vont être sensibilisés, j'espère, et qu'on inversera les choses, parce que là, c'est vraiment un mouvement d'opinion. Les députés européens ont peur de leur ombre. Il faut qu'ils comprennent que l'Europe ne s'en sortira pas sans ça.
Merci beaucoup à tous les deux, Marc Feuillet et Basile Adair. Débat à suivre et vote mercredi au Parlement européen. Bonjour Ali Rebelli.
Bonjour Saint-Déville. Mais c'était passionnant.
Oui, c'est passionnant.
Ben oui. Alors, peut-on vraiment arrêter de fumer, de se ronger les ongles, de moins stresser, de perdre du poids, de réduire ses tremblements grâce à l'hypnose? Comment fonctionne cette thérapie? Quelles sont ses contre-indications?
Quelles sont les idées des totalement
fausses. Préconçu, ouais. 01 45 24 7000. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons, c'est le retour de Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale.
À tout de suite.